Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Alicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Patricia Paris, bonjour.
Bonjour.
Pour son dernier livre intitulé « 5 leçons sur le crime et l'hystérie », édité au Seuil, comme le précédent d'ailleurs,
qui était tout à fait.
Voilà, petits arrangements avec l'infâme. Vous étiez venu le présenter en septembre dernier.
C'est ça.
Alors, on va en parler dans quelques instants. Après, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Tout d'abord, à la librairie de la Renaissance, ce samedi 6 décembre, de 14h30 à 20h, un hommage au poète Mahmoud Darwish, avec la présentation de son œuvre, bien entendu, mais également des lectures de poèmes et de textes, des témoignages, des projections de vidéos, de la musique et de la calligraphie arabe, avec la participation de plusieurs poètes que l'on connaît bien ici dans notre région, comme Gilbert Baquet, Philippe Berthaud, Serge Peille et puis Abdelmajid Kaoua. Et puis des comédiens également avec Daniel Catala et Yvan Moran. Et puis la participation entre autres de Farouk Mardambe, qui est directeur de collection chez Actes Sud et également conseiller culturel à l'Institut du Monde Arabe et auteur notamment de l'anthologie de la poésie arabe contemporaine. Alors c'est de 14h30 à 20h comme je vous le disais, et à 19h une clôture conviviale de cette rencontre autour de mets palestiniens. Alors une inscription est conseillée au 05 61 44 16 32, c'est le numéro de la librairie de la Renaissance qui se situe 1 allée Marc Saint-Saëns à Toulouse, la station de métro Basso-Cambo. Donc c'est ce samedi 6 décembre l'après-midi, donc n'hésitez pas à y aller, ça sera forcément très sympathique et puis vous serez accueilli par Roselyne Gutiérrez que j'avais reçue il y a à peu près un an pour nous parler donc de cette fabuleuse librairie. Et puis également encore à la librairie de la Renaissance, là en décembre il s'en passe des choses là-bas, le samedi suivant 13 décembre à 16h il y aura une rencontre avec Maxime Vivas que l'on connaît également, qui est écrivain de notre région, pour son dernier livre intitulé La face cachée des reporters sans frontières. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour également samedi 13 décembre. Le samedi 13 décembre également, mais dans un autre lieu cette fois-ci, c'était la médiathèque José Cabanis au petit auditorium qui se situe au 3e étage de la médiathèque, de 10h30 à 12h30. Vous pouvez faire un atelier, enfin assister à un atelier de lire la poésie proposé par Blandine Poney. Alors il s'agit de découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples, de travailler ensemble dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole, etc. Donc c'est sur inscription au 05 62 27 45 24, donc c'est samedi 13 décembre, le matin, de 10h30 à 12h30. Et puis je terminerai cette page d'infos en vous rappelant qu'à Montauban, en ce moment, depuis lundi 24 novembre, eh bien il y a le 18e festival de lettres d'automne, et ça s'achève justement dimanche 7 décembre, donc vous avez encore quelques jours pour y aller, si vous êtes du côté de Montauban, puis bon, Montauban c'est pas trop loin, vous pouvez y aller, de Toulouse. Il y a des rencontres, des lectures, des spectacles, de nombreux auteurs présents, des ateliers pour petits et grands. Donc renseignements au 05 63 63 57 Alors 05 63 63 57 62, et sinon vous avez le site de l'association qui organise ce festival, qui est l'association Confluence. Donc c'est www.confluence.org.
Page à page, Claire Ambille.
Et je me tourne maintenant donc vers mon invitée, Patricia Paris, qui va nous parler de son dernier livre, 5 leçons sur le crime et l'hystérie, paru au Seuil, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on va peut-être un petit peu vous présenter de nouveau, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté il y a un an l'émission sur petits arrangements avec l'infâme. Donc Patricia Paris, vous êtes toulousaine et fière de l'être.
C'est tout à fait ça.
Vous aimez votre ville, notre ville rose. Vous êtes une grande voyageuse, vous aimez les villes, à la fois les villes et les déserts.
Voilà, beaucoup les villes. C'est vrai que je suis une grande arpenteuse de cités, le plus loin possible.
Donc New York, Venise, Istanbul, Petra, Paris aussi, là c'est plus proche.
J'aime beaucoup Paris.
Paris est très riche de choses belles à voir. Et puis vous avez voyagé en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient.
Et en Asie pour la première fois cet été.
Ah oui, parce qu'en septembre l'année dernière, vous m'aviez dit pas l'Asie. Donc ça y est, c'est fait.
C'est
le baptême de l'Asie a été fait. Ça vous a plu ?
J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire.
C'est magique ?
J'étais à Bangkok et puis ensuite je me suis promenée en Thaïlande. J'ai visité tout le nord de la Thaïlande. Je suis allée jusqu'au Triangle d'Or. C'était très beau.
Oui, bon. Et de par vos mélanges d'origine aussi, vous aimez voilà, le voyage. Vous êtes à la fois française et camerounaise.
Mon père est camerounais,
voilà.
C'est ça. Et quant à moi, je suis née à Toulouse, d'une mère qui appartient vraiment à une vieille famille toulousaine. Donc je suis très très attachée à ma ville.
Mais voilà, ça vous a peut-être aussi donné le goût du voyage, de découvrir l'ouverture des cultures.
Oui, j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, d'autres architectures aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les villes.
Les villes, pour l'architecture. Alors, vous êtes passionnée d'histoire, bien sûr, ça, on s'en rend compte dans vos romans, que ce soit dans L'ombre de Montfort ou dans Petits arrangements avec l'infâme ou encore dans celui-ci, 5 leçons sur le crime et l'hystérie. Donc, passionnée d'histoire depuis toujours, depuis très longtemps.
Depuis très longtemps. J'ai découvert l'histoire avec Alexandre Dumas et depuis, je n'ai pas lâché.
Vous n'avez pas lâché. Et donc, boulimique de lecture aussi. Donc, justement, vous parlez d'Alexandre Dumas, mais aussi de Pollard, de Théophile Gauthier. Vous êtes assez
éclectique
dans vos choix de lecture.
Tout à fait.
Et vous avez le temps de ménager tout ça, la lecture, l'écriture, le travail, parce que justement, vous êtes médecin psychiatre à Toulouse, donc ça fait beaucoup de choses.
Oui, je fais beaucoup de choses, mais je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Probablement aussi parce que j'ai la chance de pouvoir lire vite et de pouvoir consommer plusieurs romans par semaine.
Ah oui ?
Oui.
Ah, vous faites mieux que moi. Moi, pour mes émissions, j'en lis un par semaine, alors vous, plusieurs par semaine.
Je peux lire 2 à 3 romans par semaine, en effet.
Eh bien, Patricia Paris est une grande...
Je suis une grande consommatrice.
Consommatrice. Accro à la lecture.
Oui, tout à fait.
Donc, comme je le disais, vous êtes médecin psychiatre à Toulouse et ça revient dans vos livres puisque là, dans le précédent Petits arrangements avec l'infâme, on avait suivi la première enquête, enfin, première énigme de Antoine Letellier, qui est lui aussi médecin psychiatre à Toulouse.
Voilà, j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir un enquêteur qui soit psychiatre. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'investigateurs. C'est pas vraiment un enquêteur puisque voilà, c'est pas un policier, c'est pas un flic.
Non, tout à fait.
C'est un psychiatre qui est confronté à différents milieux, confronté à des histoires un peu complexes, à des énigmes, et qui, grâce à sa connaissance de l'être humain, sa connaissance de l'histoire aussi, arrive à démêler toutes ces intrigues. Et j'avais trouvé intéressant que ce soit un psychiatre, d'abord parce que c'est quelque chose que je connais bien, donc ça me permettait...
Voilà, c'était sur un terrain connu.
Voilà. D'être en terrain connu, c'est très aidant. Surtout que très souvent, la psychiatrie est décrite dans les romans de manière un peu caricaturale, ou de manière un peu approximative parfois. Donc c'était intéressant d'avoir un investigateur qui soit un psychiatre.
Oui, où il y avait des choses juste décrites, quoi. Voilà,
ça permettait de décrire le milieu de la psychiatrie de manière qui soit correcte.
Abordable et accessible pour tout le monde.
Et également accessible. Et puis, je trouve que c'est intéressant de faire découvrir le milieu de la psychiatrie aux lecteurs, parce que souvent, les gens s'en font une idée un peu préconçue.
Oui, genre, les médecins psychiatres, oui, c'est pour les fous. Moi, je suis pas fou, je vais pas aller les voir.
Voilà.
C'est un peu ça.
Y a ça, et puis il y a aussi... Enfin, il y a 2 options. C'est-à-dire, soit on considère que le psychiatre interne abusivement les gens, soit au contraire, qu'il laisse dehors des gens qui devraient être enfermés. Donc,
c'est
entre les deux...
C'est un vaste débat, surtout en ce moment.
Voilà.
Hein,
entre les deux, il faut arriver à trouver un équilibre qui soit à peu près convenable. En tout cas, mon investigateur, le docteur Letellier, est un psychiatre qui est très sympathique.
Ah oui, puis on l'imagine, comme on l'avait dit la dernière fois, très. Apparemment, il est séduisant. Hein. Vous le décrivez séduisant comme séduisant.
Séduisant et surtout
cet homme,
séducteur. Hein. Il est surtout séducteur. Donc après, je ne sais pas s'il est séduisant, mais en tout cas, il aime séduire et il veut séduire.
Et il y arrive.
Il y arrive, voilà. Et puis il est donc confronté à des histoires, des énigmes policières. Alors, je trouve que quand on est psychiatre, c'est comme quand on est curé ou instituteur ou journaliste. On peut être confronté à tous les milieux sociaux, à tous les milieux culturels. Et donc, on peut être amené à découvrir des histoires de vie très complexes.
Oui, très différente, voilà, très différente. Donc là cette fois-ci, ça se passe dans le domaine ben plus de la psychanalyse, hein, ce roman.
Oui, en fait, alors pour deux raisons. La première, c'est que le premier meurtre a lieu lors d'un congrès de psychiatres, hein, et de psychanalystes, hein, qui a lieu à Toulouse. Donc c'est le point de départ du bouquin, mais surtout parce que ce premier meurtre qui a lieu dans un congrès de psychiatres à Toulouse va faire référence à des meurtres qui se sont passés il y a 150 ans, à un moment où le plus célèbre des psychanalystes, hein, puisque c'est lui qui a inventé la psychanalyse, Freud, Sigmund Freud, est venu à Paris rencontrer Charcot à la Salpêtrière. Alors en fait, peu de gens connaissent cette histoire parce que quand on décrit Freud dans les romans ou dans les essais, dans les documents que l'on connaît, on imagine plutôt le Freud un peu installé, bien bourgeois, un peu rassis, qui a déjà inventé la psychanalyse. Donc on le voit, bon papa, voilà, père de famille.
Mais en fait, il a été étudiant et
il a été comme tous les
comme
autres.
Tout le monde, voilà, il a été étudiant. Il a bien fallu et il a fait un séjour donc.
Et il est venu à Paris
d'un an et demi chez.
Il est venu
chez nous,
à Paris en 1885-1886. Il est venu rencontrer le professeur Charcot, qui était un grand neurologue français, qui avait une renommée vraiment internationale, et qui est le premier qui a parlé de l'hystérie et qui a décrit l'hystérie. Et Freud est venu assister aux leçons du mardi du professeur Charcot.
Les fameuses leçons du mardi à la Salpêtrière.
C'est ça.
Et alors, on va revenir un peu sur le roman, sur la construction. Donc, c'est en 5 leçons, hein, puisque le titre, c'est 5 leçons sur le crime et l'hystérie. Donc, les 5 leçons, donc il y a 5 grandes parties. Donc, la première, c'est « Qu'entend-on par hystérie ?» La seconde, c'est l'hystérique est-elle une manipulatrice? La troisième partie, donc troisième leçon, l'hystérique peut-elle être un homme?
Et ça, c'est une question qui était très importante à l'époque, hein, puisqu'on pensait que comme hystérie, ça vient du mot utérus, forcément, les hystériques étaient toujours des femmes.
Toujours des femmes.
Et voilà. Charcot et Freud ont démontré le contraire.
Ah, très bien. ça rassure, hein. Leçon 4, l'hystérie peut naître que le masque de la paranoïa.
Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a tendance à traiter les gens d'hystériques un petit peu à tort et à travers. C'est devenu une insulte d'ailleurs aujourd'hui de dire.
Oui, les gens un peu énervés, ils sont hystériques.
Voilà, on dit à quelqu'un t'es hystérique, etc. En réalité, c'était un vrai diagnostic très sérieux et qui parfois donc pouvait cacher certains troubles psychiatriques tout à fait décrits de manière très rigoureuse et des vrais troubles psychiatriques sévères.
Comme la paranoïa.
Comme la paranoïa.
Et la cinquième leçon, donc cinquième et dernière partie de ce livre, la conviction de la paranoïa conduit à la violence.
Et oui, alors là aussi c'est d'actualité. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire le lien entre la maladie mentale et la violence ?
Oui.
Et donc, je donne une réponse dans le bouquin. Bon, ça c'est en filigrane puisque quand même ces 5 leçons, l'idée c'est de suivre l'enquête que
vous
menez.
Oui, tout à fait. Mais les titres sont importants aussi.
Tout à fait. Mais Antoine mène son enquête de son côté, et puis il y a l'enquête du passé qui est menée par Sigmund Freud.
Voilà. Alors la construction du roman, elle est un peu, il y a une analogie avec le précédent, Petits arrangements avec la femme, c'est-à-dire une alternance entre donc le passé et le présent, hein, c'est-à-dire 1885-1886, et puis à Paris, donc avec le professeur Charcot, avec Freud, avec Jacob Bloch. Et puis Rachel Mayer, alors ce sont des personnages, ceux-là, qui sont fictifs.
Voilà, donc...
Il y a un mélange aussi de fiction et de réalité.
Tout à fait, c'est-à-dire que Freud, donc...
Existe, bien sûr, aussi.
Et il a... Donc j'ai imaginé qu'il était appelé à l'aide par Charcot, qui est confronté à un tueur en série, qui s'appelle l'éventreur de la Salpêtrière. Donc Charcot demande à Freud de l'aider à résoudre cette énigme, et Freud, bien sûr, ne mène pas l'enquête tout seul, il est accompagné de deux camarades, Jacob, qui est un interne des hôpitaux, et Rachel, qui est une jeune femme qui n'est pas interne des hôpitaux, mais qui aimerait bien le devenir à une époque où les femmes n'étaient pas autorisées à passer l'internat en médecine.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, la première femme interne des hôpitaux a été l'épouse du médecin.
Oui, un médecin qui était également très connu à l'époque, hein, qui s'appelle Déjerine. Donc, sa femme avait fait des études de médecine. C'était une américaine. Elle avait fait des études de médecine en France. Donc, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de devenir interne des hôpitaux, mais la France n'était pas si en retard que ça, parce que dans beaucoup d'autres pays, elles n'avaient même pas le droit de devenir médecin.
Ah oui.
C'était le cas aux États-Unis, en Angleterre, etc.
Et donc on était quand même précurseur, quoi, de quelque chose.
Voilà, on était un petit peu précurseur. En revanche, elles n'avaient pas le droit de devenir internes des hôpitaux, et donc elles estimaient que ce n'était pas normal, puisqu'elles avaient les mêmes compétences que les autres. Et en 1885, il y a eu un arrêté qui a autorisé les femmes à passer le concours de l'internat, mais ça a créé un scandale incroyable, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça inadmissible, qui se demandaient comment le cerveau des femmes allait faire pour arriver à engranger autant de connaissances. Oui. Et puis surtout, la grande question, c'était où est-ce qu'elles vont prendre leur garde ? Parce que, vous comprenez, dans les salles de garde de l'internat, les femmes avaient le droit de venir, mais c'était plutôt pour faire la fiesta, donc les petites femmes de Paris, les prostituées,
femmes,
etc.
Légères, voilà, donc ça n'allait pas.
Et donc, ça n'allait pas du tout.
Non.
Effectivement, Augusta Déjerine a passé le concours en 1885. Elle a été brillamment reçue à l'écrit, qui était anonyme. Et par le plus grand des hasards, elle a été collée à l'oral, qui n'était pas anonyme.
Voilà, donc...
Et là, le scandale a été très fort aussi dans l'autre sens. Et donc, en 1886, elle a pu devenir la première femme interne des hôpitaux, puisqu'elle a été reçue l'année suivante.
Donc, 1886, c'est une date importante. Hein,
oui, pour les femmes et la médecine.
Pour toutes les femmes, voilà.
Pour les femmes et la médecine dans le monde, hein, puisque ce sont les premières femmes au monde qui ont pu devenir internes des hôpitaux.
Et alors, donc, voilà, je disais, donc, alternance entre passé et présent, entre des personnages fictifs et la réalité. Donc, ces trois personnages, hein, clés, enfin, Charcot, Freud, Bloch et puis Rachel. Et puis, aujourd'hui, donc, l'alternance avec le présent, c'est-à-dire 2008, à Toulouse, donc, notre ville, on reconnaît, en plus, c'est sympathique, on reconnaît des endroits, hein, l'hôtel d'Assesa, café Le Van Gogh, voilà, hein, on les a reconnus, même s'ils ont changé un peu de nom, hein, dans le livre, mais on les reconnaît quand même. Et puis, donc, Antoine Letellier, bien sûr, psychiatre à Toulouse, et puis son ex-femme, hein, parce qu'il est divorcé, il a une petite fille, et son ex-femme qui s'appelle Anne, et puis leur ami, enfin un ami commun, hein, fidèle et ancien, qui s'appelle Samy.
C'est ça.
Donc un trio qui est un peu en mettre en parallèle avec le trio Freud, Bloch et Rachel. Voilà. Et le cadre, effectivement, comme vous le disiez, c'est un congrès de psychanalyse qui a lieu à Paris, et donc où se passe le premier meurtre, enfin la première mort d'un acteur atteint de bipolarité. Donc on parle aussi beaucoup dans ce livre de cette maladie, hein, au fil des siècles, qui a évolué au niveau des noms, hein, que ça soit la maladie maniaco-dépressive, maladie de l'humeur, maladie bipolaire. C'est la même chose, hein, en fait.
C'est une maladie qui est très connue et surtout qui est très très fréquente. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de ce type de troubles.
Et depuis longtemps,
depuis
apparemment.
Très longtemps. C'est décrit depuis l'Antiquité, hein, une maladie où alternent des moments d'exaltation, d'excitation et puis des moments de dépression profonde. À minima, on dit aux gens tu es cyclotimique, tu es maniaco-dépressif. Alors à minima, c'est pas une maladie, bien sûr. Ça devient une maladie quand ça prend des formes. Beaucoup plus virulente. Hein. Et effectivement, l'acteur est atteint de cette maladie. Il y a beaucoup de gens dans le milieu artistique qui sont atteints, non pas de maladie, mais qui sont atteints, qui ont comme ça des personnalités un peu excessives. On dit qu'ils sont lunatiques, ils utilisent souvent des toxiques, ils prennent de la cocaïne, ils prennent des extas, etc. Pour se stimuler. Et puis à nouveau,
puis
après
donc forcément, voilà, il y a
une descente qui sont très très dépressif. Oui. Et donc, je décris un acteur comme ça, qui est un acteur très célèbre, qui fait de la publicité pour un petit café.
Il y a une référence. Oui, voilà, oui, on l'a, voilà, tout à fait.
C'est un acteur québécois.
Ah oui, dans le livre, il est québécois.
Il est québécois.
Voilà, donc comme ça, ça noie un peu le poisson, quoi, comme on dit.
C'est un acteur québécois qui fait de la pub pour un petit café et qui est retrouvé assassiné dans ce congrès de psychiatres à Toulouse en plein mois de juillet sous une chaleur écrasante.
Et puis donc il y a Anne, l'ex-femme donc d'Antoine Letellier, qui se met à recevoir des cahiers mystérieux d'un autre temps, d'un autre siècle, hein, 150 ans auparavant. Donc des cahiers d'un inconnu, et donc ils vont se mettre à un peu à chercher, à élucider cette mort. Et puis il y en a une deuxième qui se passe au cloître des Jacobins. Là, on le reconnaît bien, le cloître des Jacobins, avec la mort d'une psychiatre qui était justement la fiancée de l'acteur qui est mort, qui est le premier mort. Et après, donc, ce sont voilà, c'est toute l'énigme qui se trame avec le personnage clé aussi de Berger, ou Berger à l'allemande, si on prononce, qui est important aussi.
Oui, en fait, effectivement, l'idée, c'est que les meurtres qui se sont produits il y a 150 ans recommencent. Et Anne et Antoine, donc mon couple d'investigateurs, mais de psychiatres, se rendent compte qu'il y a 150 ans, Jacob, le camarade de Freud, a écrit des cahiers pour relater ses crimes. Ils reçoivent ces cahiers. En fait, ce sont les cahiers de Jacob. Jacob a raconté ce qui s'était passé, comment Freud a mené l'enquête avec Rachel et lui-même.
Parce qu'il y avait des meurtres à la Salpêtrière.
Il y avait eu des meurtres à la Salpêtrière.
Assez sanglants, violents.
Assez sanglants, violents. Donc, l'éventreur de la Salpêtrière, quelques mois avant Jack l'éventreur à Londres. Jacob raconte tout ceci dans ses cahiers. Anne reçoit ses cahiers et ils se rendent compte que les meurtres qui sont perpétrés en 2008, le meurtre de l'acteur puis le meurtre de la psychiatre, suivent peut-être le même mode opératoire, le même modus operandi, comme disent les profilers, que les meurtres de la Salpêtrière. Donc en fait, tout le problème, ça va être comment faire un lien entre l'enquête de Freud et
il y a 150 ans, et puis l'enquête d'Antoine et de Anne et de Samy, hein, puisque là aussi on retrouve le trio Freud, oui. Bloch et Rachel, et puis le c'est trio ça. Antoine, Anne et Samy, donc ils vont mener leur enquête chacun un peu, enfin ensemble, mais bon.
À la fois ensemble et chacun
et
de son côté.
Et un peu chacun de son côté. Hein.
Essayer d'aller récupérer des fils, chacun tire les fils, et petit à petit. Quelques ébauches de solutions se mettent en place, hein, et quelques pistes sont tracées.
Et dans ce roman, on en apprend un peu plus sur l'histoire d'Antoine Le Tellier, parce que dans le précédent, bon ben, on le présentait, c'est la première fois qu'il apparaissait, hein, donc on savait peu de choses sur son passé, enfin à part que bon, il était divorcé d'Anne, qu'il avait une petite fille, mais on ne savait pas tout ce qui s'était passé avant. Là, on en apprend un petit peu plus sur lui, un passé douloureux.
C'est ça. Antoine vient du Nord, donc ça c'est quelque chose qui est important et que j'introduisais déjà dans le premier roman. Antoine, c'est un type du Nord qui est descendu dans le Sud parce qu'il a rencontré Anne alors qu'il faisait leur internat à Paris.
À Paris.
Donc il a suivi Anne avec laquelle il s'est marié. Anne, elle est d'ici, de la région. Sa famille est d'Albi, donc vraiment elle est bien implantée dans la région. C'est une vraie sudiste. Donc elle a attiré Antoine dans le Sud. Depuis, ils ont divorcé, mais Antoine est resté parce que il est tombé amoureux du Sud, il est tombé amoureux de Toulouse, il est tombé amoureux à la fois d'une certaine pseudo nonchalance, mais dans laquelle il reconnaît quand même qu'il y a de la rigueur. Il est assez fasciné par la culture du Sud. Il est resté là, mais son passé est un passé douloureux. Il a connu des deuils, il a connu des ruptures. Et oui, je commence à donner de l'information dans ce roman, ne serait-ce que parce que une partie du roman, donc c'est un congrès de psychiatres et de psychanalystes à Toulouse, et Antoine rencontre son ancien maître, le professeur Berger ou Berger, qui est donc un psychanalyste très célèbre en France, et qui rappelle à Antoine ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient à Paris, lorsqu'Antoine est allé faire ses études à Paris. Et lance quelques pistes sur la famille d'Antoine, qui est
voilà,
une famille.
Ça lui rappelle, en fait, c'est un peu son passé en revoyant cet homme. Ça lui fait repenser à son passé.
Une famille difficile.
Oui, apparemment.
assez violente, dont je dis quelques mots et j'espère pouvoir traiter ça
dans un prochain
roman.
Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce livre, hein, parce qu'il y a des faits, à la fois des faits avérés et des faits vraisemblables. Hein. On apprend, bon, hormis le séjour de Freud à Paris, mais on apprend également que, bon, bah, il a donné son... Ça, c'est vrai. Il a donné le prénom de Jean-Martin à son fils, en hommage à Charcot.
Oui, Freud admirait beaucoup Charcot. Freud admirait beaucoup ce neurologue français qui avait à l'époque vraiment une réputation internationale. Je crois qu'on a a du mal à repérer jusqu'à quel point les neurologues et les psychiatres français étaient des gens respectés et connus sur le plan international, également les psychiatres toulousains d'ailleurs.
Oui, ben Jean-Dominique Esquirol, ouais, on a appris. Moi, j'ai appris, parce que bon, je ne suis pas d'origine de Toulouse au départ, d'adoption seulement, et j'ai appris, voilà, la place Esquirol, ce n'est pas un nom comme ça au hasard, ça vient du nom de Jean-Dominique Esquirol, qui était un aliéniste de Toulouse et qui a été le premier aliéniste à tenir compte de la parole et de l'histoire de ses patients. C'est énorme parce que bon, oui. Ça nous paraît tellement naturel à l'époque actuelle d'écouter les patients, oui. Mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Hein.
C'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Hein. Esquirol était mondialement connu, c'était un des psychiatres les plus célèbres au monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il est très connu dans les milieux psychiatriques, dans le monde entier. C'est-à-dire que dans d'autres pays, il y a des hôpitaux qui s'appellent Esquirol. Il y a beaucoup d'hôpitaux psychiatriques qui s'appellent Esquirol en France, mais également, par exemple, au Québec. C'est un nom vraiment célèbre et il est un des premiers, avec un autre psychiatre toulousain de la région qui s'appelle Pinel, qui est également très connu. Les deux qui ont fait leurs études de médecine à Toulouse ont été les premiers à se préoccuper de ce que disaient les patients, de leur trajectoire de vie, et ont essayé de réhabiliter, ce qu'on appelle aujourd'hui réhabiliter les patients, de les resocialiser par ce qu'on appelait le traitement moral, c'est-à-dire les aider à les remettre au travail, se préoccuper de leur capacité artistique, se préoccuper de leur capacité à s'intégrer dans le milieu.
Oui, de la vraie personne, oui. Enfin, de la personne en entier.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, c'est, oui, donc on apprend beaucoup de choses et aussi, bon, ça c'est un petit clin d'œil, que les pavillons des hôpitaux psychiatriques portent le nom de certaines personnes atteintes, soit atteintes de troubles psychiatriques, soit d'aliénistes célèbres.
Voilà, donc ce que je dis, c'est les fous célèbres, ou les aliénistes célèbres. Voilà.
Donc il y a Van Gogh, il peut y avoir Van Gogh,
oui,
Rimbaud,
pavillon
Verlaine,
Van
Claudel,
Gogh, le pavillon Claudel, Camille Claudel.
Donc voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses, et que Charcot aussi, ça faut le signaler, fut le premier à parler des névropathes voyageurs, hein, en suggérant qu'errance et vagabondage peuvent être le fait d'un trouble mental. Ça, c'est important aussi. Hein.
Oui, puisque à l'époque, quand on errait, quand on était un vagabond, on partait en prison. Et Charcot a été un des premiers à faire remarquer que parfois on était un vagabond parce qu'on avait des troubles psychiatrique, hein, et que donc au lieu d'aller en prison, il fallait peut-être qu'on aille dans un hôpital.
5 leçons sur le crime et l'hystérie. Patricia Paris, c'est un peu aussi un hommage aux 150 ans de l'hôpital Marchand qui vient de les fêter. Là,
oui,
cette
bon,
année.
Je me suis un peu amusée. C'est vrai que ça tombait
hommage,
bien,
voilà,
puisque
tombe bien.
L'histoire précédente se passe il y a 150 ans.
Également.
Et c'est
là,
il y a 150 ans qu'on a commencé à créer les premiers hôpitaux psychiatriques.
Et donc, il y a toute l'histoire de la psychanalyse et de tous les gens qui ont contribué à faire avancer. Alors, dans les projets, donc une prochaine aventure d'Antoine, dans un prochain livre, dans quelques temps ?
Oui, je suis en train de travailler justement au prochain. Et l'idée, c'est quand même de parler essentiellement de la famille d'Antoine et du passé d'Antoine.
Merci Patricia. On se retrouve le 18 janvier au Salon de Montgiscard, au Salon du Livre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Restez fidèles à Radio Occitanie. Merci Patricia.
Merci.
Adiciats. Boop, boop, be doop.